Alors, moi, ah oui, en effet, il y a du son. Oui. D'accord. Je n'avais pas encore mesuré le son. Donc, il faut commencer, je crois, par dire que tout ce qui a été dit dans les deux précédentes demeures demeure valable dans la troisième. Bon, pardon de dire cette évidence, d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est quand même très important. Si, par exemple, vous en êtes déjà à un stade extrêmement développé, vous êtes au sixième demeure, par exemple, c'est très bien, mais il faut quand même continuer à faire oraison. Vous voyez, on pourrait se dire, je suis tellement avancé dans la vie spirituelle que j'ai plus besoin de faire oraison. Ça veut dire que vous n'êtes même pas au premier stade. Bon. Alors donc, voilà, tout ce qui a été dit dans les précédentes demeures, je reprends par exemple, j'ai écouté un peu enfin, j'ai pas réussi à écouter votre premier topo, je cliquais et ça ne fonctionnait pas, enfin bon, peu importe, j'ai eu le frère Anthony Joseph comme lot de consolation pour le deuxième, voilà, lieu, date, durée, la croix, la persévérance et l'humilité, ben, tout ça c'est ô combien valable, surtout la question de l'humilité, mais j'y reviendrai. Après avoir demandé la permission à plus savants que moi, j'ai résolu de vous proposer une petite image qui vaut ce qu'elle vaut et qui est en fait, ce n'est pas une correction du château intérieur de Sainte-Thérèse d'Avila, je ne me serais pas permis, mais c'est une correction de l'effet pervers que pourrait avoir l'image du château intérieur. Parce que dans un château, puis même dans le château du Carmel d'Angers, ici, là, une pièce a quelque chose de fixe avec des portes, c'est fermé, c'est couvert, et on a l'impression qu'on s'installe dans une pièce et qu'ensuite on passera dans une autre, alors qu'elle-même dit qu'on se promène dans les demeures du château, donc il y a une espèce de fluidité, et c'est pourquoi je pose l'image du fond marin, qui permet de mettre un peu de souplesse dans l'image du château. Et vous avez vu quand même que j'ai, pour bien vous montrer ma confiance dans l'enseignement de Thérèse d'Avila, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour que vous ne perdiez pas vos repères. Et donc, en fait, il s'agit de la découpe d'un fond marin. C'est très simplifié, mais en gros, ça représente à peu près comme ça. Vous avez la surface de l'eau, vous avez le littoral, la plage, vous avez un petit décrochage sur 200 mètres à peu près à 30-40 degrés. Et puis, à un moment donné, au bout de quelques kilomètres, il y a une chute très forte dans les fonds marins. Une chute à presque 90 degrés, et puis quand vous êtes descendu vraiment tout en bas, eh bien, il y a encore plus bas. On appelle ça une fosse sous-marine, voilà. Et donc j'explique mon petit schéma et ensuite ce que ça veut dire pour nous en fait dans la vie spirituelle. Donc la plage, vous avez des flèches. Je commente les flèches parce qu'elles sont assez importantes en fait. Vous avez des flèches pleines et des flèches en pointillés. Les flèches pleines, ce sont les courants superficiels, c'est-à-dire le courant qu'on éprouve quand on est dans l'eau, quand on barbote, quand on est sur un bateau, on sent un courant qui va dans un sens ou qui va dans l'autre. Voilà. Et puis vous avez des flèches que j'ai mises en pointillés, parce que ce sont des courants aussi, mais des courants sous-marins, et qui ne vont pas forcément dans le même sens que les courants superficiels de la mer. Voilà. Et qui sont, à chaque fois, vous voyez, deux mouvements contraires. On pourrait dire qu'il y a un mouvement qui est bon, et puis l'autre qui serait peut-être plus mauvais. Voilà. Et les courants qui sont dans la zone aphotique, alors, vous avez deux zones, la zone qui est supérieure, qu'on appelle la zone photique, et la zone aphotique, qui est un tout petit peu hachurée. Alors, photique, ça vient de photos, photon en grec qui veut dire la lumière. Donc, ça veut dire que le soleil, lorsque les rayons du soleil touchent la mer, arrive à éclairer jusqu'à un certain point, environ 200 mètres. Donc, vous avez soleil perce, on y voit à peu près dans l'eau jusqu'à 200 mètres. À partir de 200 mètres, on tombe dans la zone aphotique, où il n'y a plus de lumière. Plus de lumière, la nuit, vous commencez à me voir venir. Voilà. Donc, il y a une zone, et ça c'est le fond marin, hein, j'ai rien inventé, hein, c'est une donnée absolument scientifique. Donc, photique, aphotique, donc il y a une certaine nuit dans les océans, et puis, je vous ai mis bien sûr un soleil et un nuage, c'est-à-dire, on pourrait dire, les lumières physiques qu'on reçoit, et puis les tristesses ou les difficultés, les problèmes qui sont symbolisés par le nuage et la pluie. Et au moment où la pluie tombe des nuages, vous le voyez un tout petit peu en dessous de la surface, ça s'agite. Mais évidemment, plus vous descendez, plus vous êtes absolument imperméable à la tempête qu'il y a en surface. Voilà. Et quand vous êtes sur la plage, eh bien, quand il pleut sur la plage, quand il fait beau sur la plage, tout va bien sur la plage, tout va mal sur la plage, et l'eau est très troublée. Voilà. L'eau est troublée quand il pleut, on n'y voit rien du tout, et quand il y a un magnifique soleil, on voit parfaitement ses pieds sur le bord de la plage. Bon. Et puis j'ai mis un, je ne sais pas si vous arrivez à lire, j'ai essayé de faire un soleil nocturne, voilà, et j'ai marqué IHS. Voilà. Comme ça, c'est très clair. Donc nous avons, je vois là la présence, enfin, dans l'analogie, la dissimilitude est toujours plus grande que l'analogie, que la ressemblance. Donc voilà, la présence de Dieu dans l'âme. Et au fond, les demeures, nous y baladons sans cesse. Imaginons par exemple que quelqu'un fasse de la plongée sous-marine. Quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine est quelqu'un qui est habitué aux zones aphotiques. Il a du matériel, il est un professionnel, il n'a pas peur de respirer dans l'eau avec son matériel. Mais malgré tout, il faut qu'il passe par la plage. Et donc, quand on est, à un certain stade, parce qu'on pratique l'oraison, j'imagine que ce que vous faites, enfin, vous n'êtes pas là tout à fait par hasard. Quand on pratique l'oraison, ben, on a une certaine habitude, donc on plonge plus vite, probablement, que quelqu'un qui, pour la toute première fois de sa vie, se tait en présence de Dieu. Mais n'empêche que vous passez par le même endroit. Vous passez par les premières demeures, deuxième demeure, troisième demeure. Mais évidemment, vous allez plus vite, avec un peu d'habitude. Ou alors, dans votre quotidien, en dehors de l'oraison, vous vous plongez en Dieu quand vous avez une épreuve, une question, un événement, eh bien, qu'est-ce que Dieu me dit ? Et là, je plonge dans la présence de Dieu. Et ça évite qu'on considère qu'on en est au stade 3 ou qu'on en est au stade 4 dans sa vie spirituelle. En fait, nous nous promenons sans cesse. Et d'ailleurs, il y a une différence entre la zone photique et la zone aphotique. Et en termes de vie spirituelle, si vous avez un petit peu... Vous avez lu peut-être... Est-ce que vous avez lu ce qui concerne les troisièmes demeures dans le chemin dans le château intérieur? Oui, pas forcément. Bon, enfin, en tout cas, quand vous le lirez, vous vous apercevrez que Sainte Thérèse d'Avila fait allusion à deux secours. Enfin, elle en fait allusion qu'à un seul dans ce chapitre-là, mais elle fait allusion à deux secours. Il y a un secours général et un secours particulier. Dans les trois premières demeures, nous sommes très actifs. Nous décidons d'un temps d'oraison. Je peux vous lire un petit passage. Le premier passage que j'ai dû vous mettre probablement, oui, c'est ça. « À ceux que la miséricorde de Dieu a fait sortir victorieux de ces combats et que leur persévérance a introduit dans les troisièmes demeures, quelles paroles adresserons-nous, sinon celle-ci, heureux l'homme qui craint le Seigneur. » Voilà. Donc, dans les trois premières demeures, évidemment, nous sommes l'objet de la miséricorde de Dieu, mais nous persévérons. Nous avons persévéré. les tout premiers temps de la vie d'oraison ont fait qu'on est encore là. Donc, alléluia, c'est très bien. Mais en tout cas, on est très actif. Et là, la zone photique dans le fond marin, c'est le secours général. Au fond, Dieu nous aide, Dieu nous fait miséricorde, mais on pourrait presque s'en sortir sans lui. Presque. En tous les cas, finalement, là, comme la part de l'homme est assez importante, c'est moi qui décide de l'heure de l'oraison, c'est moi qui met en place ces choses, je pourrais presque me passer de Dieu. Bon, en fait, en réalité, non, on ne s'en passe pas, bien sûr. Hein. La miséricorde de Dieu m'a fait sortir victorieux des combats qui caractérisent les premières et les deuxièmes demeures. Mais c'est la zone aphotique, c'est ce qu'on appelle le secours particulier, où là, Dieu commence particulièrement à agir dans l'âme de quelqu'un. Et c'est pour ça que Sainte Thérèse d'Avila constate, et puis c'est un fait, en effet d'expérience, que on s'installerait bien dans les troisièmes demeures. Voilà. On est bien, parce que c'est bien réglé. Alors, c'est le deuxième petit passage que je vous ai mis. Par la divine volonté, ces âmes sont, je crois, nombreuses dans le monde. Elles ont un grand désir de ne pas offenser la divine majesté. C'est plutôt moral. Elles évitent même les péchés véniels. Elles aiment la pénitence. Elles ont leurs heures de recueillement. Elles emploient utilement le temps. Elles s'exercent dans les œuvres de charité envers le prochain. Tout est bien réglé en elles. Leurs paroles, leurs habits, le gouvernement de leur maison, si elles en ont une à conduire. Certes, c'est là un état digne d'envie et rien, semble-t-il, j'aurais dû mettre ça en gras. D'ailleurs, je l'ai mis en gras dans mon petit papier. Et rien, semble-t-il, ne peut empêcher ces âmes de pénétrer jusqu'à la dernière demeure. Donc, les troisièmes demeures, c'est l'état de quelqu'un qui a une vie spirituelle sérieuse, régulière et qui force l'admiration, même, on pourrait dire. Mais il faut se souvenir, alors là je vais vous faire une révélation bouleversante, il faut se souvenir que les troisièmes demeures sont après les deuxièmes et avant les quatrièmes. Voilà, j'espère que vous allez tenir, malgré l'importance de cette nouvelle, je vais vous expliquer ce que je veux dire par proche des deuxièmes et proche des quatrièmes. Parce qu'en dehors de la plaisanterie, il y a quelque chose de, enfin, que j'essaye d'être un petit peu sérieux quand même. Donc, on est proche des deuxièmes demeures, ça veut dire qu'on peut dégringoler. Et ce qui empêche de dégringoler, ce sera l'humilité, beaucoup, je vais en reparler, et puis la persévérance. Moi, je fréquente un petit groupe de prêtres qui fréquentent un peu l'Institut Notre-Dame de Vie, vous savez, de Père Marie-Eugène, et en fait, on étudie « Je veux voir Dieu du début à la fin, de la fin au début, en diagonale, par petits morceaux, depuis 20 ans, 25 ans, et en fait, à chaque fois, la conclusion est d'une navrante banalité. Il faut continuer à faire oraison. Alors qu'on s'attendrait peut-être à des trucs plus... Eh ben non. En fait, il faut continuer à faire oraison. Et en fait, la grande difficulté des écoles d'oraison, de toutes les écoles d'oraison, c'est qu'une fois que c'est terminé, eh ben... il faut continuer. Et c'est pour ça que vous pourriez, vous qui n'êtes pas carmélite, il n'y a aucune carmélite par là, là, pourriez vous inspirer de ce petit groupe là qui est ici. En fait, quand elles font oraison ensemble. Hein, il me semble. Ce qui ne veut pas dire, bon, une heure le matin, une heure le soir, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en relation avec Dieu le reste de la journée, bien sûr, mais n'empêche que pour persévérer dans l'oraison et pour pouvoir accéder à une emprise de Dieu sur l'âme plus forte, eh bien, elles persévèrent ensemble. Et alors, je ne sais pas si vous vous connaissez entre vous. Non. Pas forcément. Eh bien, et pourtant vous avez quelque chose de fort en commun désormais, mais retrouvez-vous en groupe, c'est bon. Enfin, trouvez-vous un moyen pour que la persévérance soit plus simple et que vous ayez quelqu'un à votre droite et à votre gauche qui sont en train de prier aussi. Voilà. Que vous pouvez prier dans votre chambre, hein, bien sûr, hein, c'est très beau. Hein. Retire-toi dans ta chambre, ça c'est évangélique. Mais voilà, nous sommes humains, n'est-ce pas? Donc nous avons besoin d'un petit peu de soutien. La persévérance permet d'envisager que vous passiez des troisièmes demeures aux quatrièmes demeures. Et c'est pas facile, parce que le passage des troisièmes aux quatrièmes demeures est un passage aussi compliqué que quand, je prends un exemple personnel, que quand je suis dans ma voiture et que c'est pas moi qui conduis. Et moi, j'aime pas ça, hein, je peux vous dire. Moi, j'aime beaucoup conduire. Je connais bien ma voiture. Et il n'y a que moi qui la conduis bien. Moi, j'ai souvent remarqué ça. Et puis, j'ai remarqué aussi que les autres conducteurs sont en général des moins bons automobilistes que moi. Voilà. Et en fait, voilà, c'est ça notre problème. C'est que dans les troisièmes demeures, on conduit soi-même sa bagnole. Voilà. On la conduit bien. Et on a le Seigneur qui est à côté, qui nous donne des indications, il nous aide, il met du carburant, tout va bien. Seulement, je peux me contenter de moi-même, quoi. Voilà. Et là, évidemment, si je me contente de moi-même, Dieu ne me contentera pas, puisque je serai déjà content de moi-même. Et c'est là qu'on en vient à la question de l'humilité. Il ne faut pas que je perde de trop de temps, parce qu'il faut que je parle de l'humilité, c'est extrêmement important. C'est la troisième petit texte que je vous ai mis. Tout ça, c'est dans j'ai pris uniquement des extraits du chapitre des troisièmes demeures de Saint-Thérèse d'Avila. Les âmes qui, par la volonté de Dieu, sont arrivées à cette demeure, faveur qui n'est pas petite, car elles sont très bien près de monter plus haut, quatrième, ne peuvent, à mon avis, rien faire de plus utile que de s'exercer beaucoup à une rapide obéissance. Ça, c'est en grâce, obéissance. Même aux personnes étrangères à l'état religieux, il serait très avantageux d'avoir, à l'exemple de plusieurs, un guide dont ils suivent les avis, afin de ne faire en rien leur propre volonté. Alors, il y a un lien très fort entre l'obéissance et l'humilité, parce que si par hasard je constate que ma vie est à peu près moralement juste, et que en plus je fais l'acte pieux de faire oraison, je pourrais très bien obtenir une espèce de petit contentement de soi qui fait que je n'avancerai pas. Et ce qui fait avancer, c'est l'obéissance. Alors je vais vous donner un exemple de curé, parce que c'est ma vie, donc je la connais bien. Quand j'étais tout jeune prêtre, je présidais quelquefois des professions de foi, des premières communions, avec des assemblées de 200, 300, 400 personnes qui ne savaient pas du tout ce qu'il fallait répondre quand je leur disais « Le Seigneur soit avec vous ». Regardez, tiens, dit « Le Seigneur soit avec vous ». Ils ne savaient pas quand est-ce qu'il fallait se lever, s'asseoir, quoi répondre, alléluia, rien, rien. Et du coup, j'ai eu à ce moment-là l'idée, l'intuition, qu'au moment de célébrer la messe, au moment surtout du canon, de la prière eucharistique, que je puisse la célébrer en silence. Et donc, je me suis dit, au fond, brusquement, le silence, le fait de me voir, faire comme ça, tout ça, ça va peut-être les scotcher un peu. Et donc, j'en parle à mon père spirituel, qui est un bénédictin, donc la liturgie, tout ça. Et donc, je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que je pourrais dire le canon en silence? Et là, il me dit, non, il ne faut pas faire ça. Bon. Et donc, il était tellement catégorique que j'ai dit, bon ben voilà, je ne le ferai pas. Du coup, j'ai obéi. Mais ça, ce n'était pas très difficile d'obéir, parce que je n'avais pas encore travaillé le sujet. Là où ça devient intéressant, par rapport à la question de l'obéissance et de l'humilité, c'est que, quelques années plus tard, j'ai découvert que Joseph Ratzinger a dit, dans l'esprit de la liturgie, Il n'y a rien qui oblige un prêtre à dire le canon à haute voix. Je ne sais pas si vous saisissez, bah oui, vous saisissez, je pense, vous avez compris. J'aurais pu prendre Ratzinger pour cogner sur mon père spirituel. Oui, en disant, vous voyez, c'est Ratzinger qui le dit. Donc en fait, je suis d'accord avec Ratzinger. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu la certitude que si je le faisais quand même au prétexte même de Ratzinger, eh bien en fait, je prenais le risque d'être orgueilleux plutôt que de prendre le risque que ce soit le bazar pendant la profession de foi. Vous voyez ? Et il est possible d'ailleurs que si j'en reparle avec lui quand il sera un peu plus vieux, que je puisse obtenir la permission de le faire. Mais, et puis peut-être même d'ailleurs que j'aurais bien fait de le faire. Mais j'ai mieux fait, je pense, pour l'instant, de ne pas le faire, parce qu'il m'a dit catégoriquement de ne pas le faire. Vous voyez ? L'obéissance, c'est bon. Et je ne crois pas que ce soit, je ne sais pas comment dire, que la vérité est importante, la bonne décision, c'est important, mais l'obéissance, c'est vraiment fondamental. Et que au fond, il faut qu'on s'obéisse les uns aux autres. Même si on pense avoir raison, tant pis. C'est préférable d'obéir que d'avoir raison. Il vaut mieux avoir tort en restant humble que d'avoir raison en devenant orgueilleux. Bon. Évidemment, on n'aime pas ça. C'est humiliant d'être humble. S'il faut sans arrêt corriger la trajectoire. En fait, je vous propose une autre petite image marine que je n'ai pas mise sur mon petit dessin. Vous pouvez la rajouter si vous voulez. Mais un jour, quand j'étais petit, j'ai fait une croisière autour de l'île de Wight, au sud de l'Angleterre. Et très gentiment, au moment où il n'y avait aucun risque, Mr. Dibble, il s'appelait comme ça, il disait « My name is Dibble, Dibble is Bible with a D ». C'est joli, hein ? Bon, bref. Et donc ce monsieur, il y avait des kilomètres d'eau à droite, à gauche, devant et derrière, donc il n'y avait aucun risque, il m'a dit « Je te laisse la barre ». Alors j'ai pris la barre. Et là, j'ai eu la mauvaise surprise, un peu humiliante, de voir que derrière moi, le sillon du bateau était complètement... c'était jamais droit, quoi. C'est-à-dire que quand lui menait la barque, le sillon était parfaitement droit. Puis moi, quand j'étais tout à fait inexpérimenté, je tournais trop à droite, trop à gauche. Et en fait, je sens que l'humilité des troisièmes demeures, c'est de corriger sans cesse la trajectoire du bateau. Et quand j'ai une tentation de trop m'écouter moi-même, de me contenter de moi-même, je redresse, mais je peux être aussi pusillanime, je ne sais pas si vous êtes familier de ce mot, la pusillanimité. La pusillanimité, c'est le contraire de la vanité. L'orgueil, en fait, est soit pusillanime, soit vaniteux. La vanité, c'est de se prendre pour meilleur qu'on est, et la pusillanimité, c'est de se trouver nul. Hein ? J'ai rencontré d'ailleurs beaucoup plus dans mon ministère de personnes pusillanimes que de personnes vaniteuses. Je trouve que c'est encore pire. C'est une forme d'orgueil qui est encore pire que celle de la vanité, parce que ça a les atours de la modestie et de l'humilité. Et donc, en fait, soit je suis vaniteux, soit je suis pusillanime, et l'humilité est un chemin de crête sur lequel je dois essayer de marcher droit, sans aller trop à droite, ni trop à gauche, et en essayant d'être fidèle, régulier, pour ne pas perdre le cap. Je vous ai mis une petite citation de Saint-Thérèse de Lisieux, qui est intéressante aussi, parce que l'humilité, c'est vraiment essentiel. Ça me paraît être une donnée essentielle des troisièmes demeures. On n'est pas humble tant qu'on n'est pas dans la disposition habituelle d'accepter d'être repris. Hein, c'est une phrase à plusieurs tirettes. Hein. On n'est pas humble tant qu'on n'est pas dans la disposition habituelle d'accepter d'être repris. Accepter d'être repris une fois, ok. Deux fois, ok. Mais quand ça devient habituel, c'est autre chose. Je ne sais plus, je radote. Je ne sais plus si je vous ai déjà raconté cette histoire de la sacristine. Non. J'arrive dans une sacristie. C'était chez des religieuses, mais pas des carmélites. Bon. C'est mieux, hein, parce que... Bon. J'arrive dans une sacristie. Je devais célébrer la messe un lundi matin. J'étais tout seul. Parce que c'était un dépannage. Je voulais célébrer la messe et j'ai trouvé une chapelle... une communauté de religieuses. Bon. Et puis, la petite jeune sœur, toute jeune sœur, elle m'installe les choses. Quand j'étais tout seul, c'était un peu inhabituel. Donc elle dispose des affaires, tout ça. Puis elle me dit, ça vous va comme ça, père? Je dis, oui, très bien. Je me fichais pas mal de l'agencement. Je dis, oui, très bien, parfait. Et puis, juste avant que je célèbre la messe, la sacristine en chef arrive. Et là, elle dit à la sœur, ah, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, mais il faut mettre le machin là, là, clac, là. Et elle change tout. Et là, la petite sœur me regarde avec un air suppliant en disant, mais dites-lui qu'on s'était mis d'accord tous les deux. Et là, je l'ai laissé tomber. Mais par charité, par tendresse pour elle, je l'ai laissé tomber. Je l'ai laissé se faire rabrouer par la sœur, enfin rabrouer, entre guillemets, c'était vraiment, c'est pas à droite, c'est à gauche, c'est machin ridicule, enfin tout simple. Mais... Et après on s'est revus, à la fin de la messe, on s'est parlé, parce que c'est elle qui a rangé les affaires. Et je lui ai dit, mais ma sœur, vous venez de vivre un très beau moment de votre vie religieuse. Et en fait, elle en est convenue, parce que elle a obéi mécaniquement à une sœur sur un sujet qui n'avait pas beaucoup d'importance. Mais cette obéissance mécanique lui a fait du bien. Alors que si j'avais pris, notre arrangement avec cette petite sœur contre la sœur sacristine, d'abord j'aurais humilié la sœur sacristine. Parce que j'étais le prêtre, j'étais l'hôte, je l'aurais humilié en fait. Et donc, ben, ça n'aurait pas été bon. Et alors que la petite sœur, elle, a appris que quand on obéit, et qu'on n'a pas de mauvaise raison d'obéir, et que ce n'est pas non plus sans énormes conséquences d'obéir, c'est toujours mieux d'obéir. Voilà. Bon, la pauvre. J'espère que je ne l'ai pas traumatisée, et qu'elle est toujours religieuse. Bon. Et donc, Thérèse d'Avila dit... j'ai aucune idée du temps dont je dispose encore, donc il faut vous me dire. J'ai plus beaucoup de temps. j'ai plus que deux, trois petits trucs à vous dire. Thérèse d'Avila dit, même aux personnes étrangères à l'état religieux, il serait très avantageux d'avoir, à l'exemple de plusieurs, un guide dont ils suivent les avis, afin de ne faire en rien leur propre volonté. Et ça, c'est la question de l'accompagnement spirituel. Sur lequel je pense qu'il faut avoir beaucoup de souplesse, parce que l'accompagnateur spirituel, le père spirituel, n'est pas quelqu'un qu'il faut nécessairement rencontrer tous les 15 jours pendant une heure et demie. Voilà. Je durcis un peu le trait, mais en fait, il y a des périodes de sa vie où on n'en a pas beaucoup besoin, et d'autres où on en a grand besoin. Et donc ça veut dire qu'il faut essayer de trouver le bon rythme, et souvent d'ailleurs, le tout premier moment, le tout premier accompagnement spirituel permet de déterminer ce genre de choses, selon l'âge, les décisions à prendre, la gravité des situations, tout ça. Et donc c'est bon d'avoir un accompagnement spirituel, même si notre père spirituel, c'est Dieu. Bon, évidemment. Donc en fait, c'est Dieu qui nous dirige. Et quand on parle à quelqu'un, ce quelqu'un, finalement, est comme une espèce de miroir grâce auquel on voit bien qu'on va dans la bonne direction ou au contraire dans la mauvaise direction. J'ai eu un jour quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit j'aurais besoin d'un accompagnement spirituel. Et je lui ai répondu ce que je réponds toujours quand on me pose cette question. Je lui ai dit, est-ce que tu as besoin d'être secoué ou au contraire, est-ce que tu as besoin d'être un peu rassuré, coucouné, tout ça. Et en fonction de sa réponse, je lui trouve quelqu'un d'un peu... voilà, ou au contraire, un bon vieux papy qui va être sympa et qui ne va pas trop la bousculer. Voilà. Ce n'est pas toujours qu'une question d'âge, mais en tous les cas, il faut se connaître. La connaissance de soi, c'est très important. Et quand on se connaît, on choisit l'accompagnateur spirituel, d'abord qu'on a reçu dans la prière, et en fonction des besoins qu'on a, si on est, enfin, selon son tempérament. Voilà. Mais enfin, ça ne sert à rien que je vous dise tout ça, parce que vous avez tous déjà un accompagnement spirituel. Je me suis posé une dernière petite question pour vous, qui est, à quoi ressemble l'oraison quand on en est aux troisièmes demeures selon le château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila? Eh bien, je pense, alors, outre l'humilité qui est la vertu fondamentale, je crois que l'attitude fondamentale des troisièmes demeures, ça doit être l'abandon. Il y a une magnifique prière d'abandon de Charles de Foucault que vous connaissez. Sans doute, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Je vous signale, parce que il y a dans cette prière, je suis prêt à tout, j'accepte tout. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit souvent, moi j'arrive pas à dire cette phrase. Moi je suis pas d'accord pour tout accepter. Et en fait, Charles de Foucault a écrit cette prière. C'est une méditation sur le Christ. C'est le Christ qui parle. En tes mains, je remets mon esprit. Donc, en fait, c'est une méditation de Jésus en croix qui dit « Je suis prêt à tout, j'accepte tout ». Donc, c'est Jésus-Christ qui accepte tout. Ce n'est pas forcément vous. Enfin, vous faites ce que vous pouvez. Ça dépend de ce que vous avez vécu, les uns et les autres. Bon, quelquefois, on a vécu des trucs... pas piquer des vers, et du coup accepter tout, c'est peut-être pas forcément facile ou la bonne chose. Donc en fait c'est plutôt l'abandon de Jésus qui doit rentrer en nous. Donc c'est pas seulement une attitude psychologique hein, où je dis j'arrête de me battre, je m'abandonne, tout ça, oui, un petit peu de ça, mais c'est surtout je demande à Jésus que son abandon de la croix descende en moi pour qu'il y ait une certaine passivité dans mon oraison, et que cette passivité permette à Dieu d'enclencher la quatrième vitesse, les quatrièmes demeures. Voilà, ou là c'est un peu moins drôle, mais c'est pas mon rôle de vous en parler, si ce n'est que je trouve, moi, enfin je peux être d'accord, mais je trouve que le passage des troisièmes aux quatrièmes demeures est quand même le début de la contemplation, le début de la vie mystique, le début de la vraie vie spirituelle, enfin, spirituelle vraiment prise par Dieu, le passage c'est presque une demeure à lui tout seul, je trouve. Mais bon, en tous les cas, quand le Père Marie-Eugène parle du passage des troisième au quatrième demeure et qu'il parle du passage du secours général au secours particulier, au moment où Dieu commence à prendre le volant, eh bien, il en parle juste avant les quatrièmes demeures, comme si le passage était extrêmement important. L'abandon et le don de soi. L'abandon et le don, d'ailleurs, c'est deux dimensions de la même chose. Voilà. Le Père Marie-Eugène, je termine avec ça, dit que le don de soi a trois caractéristiques. Alors, il dit d'abord une autre chose que j'aurais peut-être dû dire au début. Il y a trois choses qui exercent sur Dieu, je cite le Père Marie-Eugène, une pression quasi irrésistible. Il y a trois choses qui exercent sur Dieu une pression quasi irrésistible. Le don de soi, le silence et l'humilité. Et donc, quelqu'un qui essaierait de vivre ça dans son oraison. J'essaye de chercher l'humilité, de savoir me taire et de me donner. Eh bien, cette personne est dans la bonne voie pour progresser, pour être un instrument entre les mains de Dieu. Et le don de soi a trois caractéristiques, et je termine vraiment pour le coup. Il dit, le don de soi doit être total, indéterminé et souvent renouvelé. Total, indéterminé et souvent renouvelé.
Merci beaucoup, Père Emmanuel. On va prendre un tout petit temps s'il y a des questions.
Pas forcément des questions, d'ailleurs. Si vous avez aussi des affirmations complémentaires, je suis preneur. Je suis un élève.
C'est juste pour compléter quelque chose par rapport à l'obéissance, c'est que la pratique de l'obéissance, en fait, ça nous rend beaucoup plus simple, c'est moins fatigant et on n'a pas à se battre contre l'autre, donc obéir, c'est super.
Oui. Votre réflexion me fait penser que je n'ai pas donné l'étymologie du mot obéir. Ob, ça veut dire devant, et aodire, écouter. Donc j'écoute celui qui est devant moi. Ce qui fait qu'on obéit, moi, je suis curé de paroisse, les curés ont la réputation de diriger leur paroisse, mais en fait, le plus souvent, c'est la paroisse qui dirige le curé. Je vous assure. Hein. Et c'est pas une formule, tout ça, machin, c'est vrai. Parce que, en fait, les gens nous disent un tas de trucs. Et quand quelqu'un nous dit quelque chose de pertinent et d'intelligent, on l'écoute. Figurez-vous. Mais par contre, quelquefois, on a du mal à écouter. Il y a une personne, par exemple, qui m'a dit une chose quand je suis arrivé dans Paroisse d'Angers, n'est-ce pas, que j'ai beaucoup fréquenté pendant 8-9 ans. Il y a une personne qui est venue me dire quelque chose dès le début. Je ne dis pas ce qu'elle m'a dit, parce que sinon, enfin, je ne vois pas qu'on puisse identifier la personne. Elle est venue me dire quelque chose. Et je ne voulais pas écouter. J'étais gentil avec elle. Hein. Je disais bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. J'étais bien élevé. Mais en fait, ça ne venait pas. Et il m'a fallu presque 2 ans pour l'écouter. Mais j'ai fini par l'écouter. On apprend beaucoup de ses erreurs.
Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose?
Vous parliez tout à l'heure d'être au service de la paroisse, c'est la paroisse qui vous menait. Si vous étiez un berger avec des moutons, vous seriez en tête ou vous seriez derrière?
Les trois, mon capitaine. Parce que François a dit qu'il fallait être devant le troupeau, au milieu du troupeau et derrière le troupeau. Ça veut dire que, en fait, ça dépend des situations. Il faut malgré tout que le chef donne une direction. Un curé, c'est un chef de communauté, donc il donne une direction. Et les gens aiment beaucoup quand le chef donne une direction. Et c'est un groupe a besoin d'être mené. Enfin, voilà, on joue le rôle, hein. Je joue ce rôle-là. Mais en fait, je les mène en écoutant, quand même. Et quelquefois, c'est un enfant qui me donne la solution de ce que je cherche. C'est pas forcément les membres du conseil patenté qui ont reçu une lettre de nomination de l'évêque, machin, machin. Quelquefois, c'est quelqu'un qui dit une chose d'une vérité fulgurante. On doit écouter, on doit obéir. Donc, les trois.
Merci. On a un petit témoignage en même temps. Nous, on est en couple depuis 50 ans et on a longtemps cherché un père spirituel. Et un jour, un père abbé nous a dit mais votre père spirituel, vous l'avez à côté de vous. Et en fait, on s'est aperçu que on était tous les deux pères spirituels de l'autre.
Oui, en quelque sorte, oui.
Voilà, après, bon... Oui.
Comme j'ai un fort esprit de contradiction, je vais vous contredire un peu. Oui et non, parce que vous êtes quand même tellement... c'est vrai que vous vous dirigez l'un l'autre, ça c'est sûr. Parce que vous vous obéissez l'un à l'autre, en quelque sorte, et que vous vous dites de temps en temps des choses vraies l'un à l'autre. Et que quand on entend la vérité, il faut obéir à la vérité. Mais malgré tout... quelqu'un de complètement extérieur à votre ménage pourrait peut-être vous donner deux, trois trucs qui seraient utiles. Voilà. Oui. Et voilà.
En fait, je voulais juste porter un témoignage. Au début, vous avez parlé de la persévérance pour l'oraison pour démarrer. Personnellement, j'ai connu une période où je n'ai pas du tout pratiqué, et après j'ai redémarré parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de fonctionner en binôme pour l'oraison. Et le principe, c'est qu'on se téléphonait, un échange de nouvelles de 2 minutes, et après on savait que l'une et l'autre étaient chez nous, mais en oraison. Et on a été 2, et on a été 4, et on a été 6, et on a été jusqu'à 9. Et ça a marché pendant des années. Et on changeait les binômes de temps en temps. J'avoue que ça m'a beaucoup aidé.
Mais bien sûr, voilà. Bien sûr. Et j'ai été aumônier de Guy Dénet pendant de nombreuses années. Et j'ai recommandé toujours aux jeunes filles de se trouver des trucs comme ça. Comme par exemple, vous vous retrouvez le mercredi soir à la cathédrale à Angers. Et puis vous priez ensemble. Pas nécessairement en faisant des réunions, des instructions et autres, mais simplement vous donner rendez-vous, c'est bon ça. Hein. Merci, hein, c'est bien. Bien sûr. Et dans le même ordre d'idée, j'aime beaucoup me placer dans la chapelle à des moments précis où les gens finissent par savoir, dans les différentes paroisses où je suis passé, et du coup nous, on fait oraison ensemble pendant une heure, quoi. Et on se soutient beaucoup. Il y a certainement des jours où je pourrais me décourager de prier, mais comme les paroissiens viennent qui me voient, ben je suis coincé. Et après j'y vais. Mais c'est bien.
Merci beaucoup. On va peut-être s'arrêter pour avoir le temps de faire un peu oraison avant de prier les complis. On pourrait reprendre le chant... Dieu seul suffit sur la page 1.